Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Rencontre avec les êtres de la nature. D'Anne Givaudan. Narration Anne Givaudan.
À tous ceux et celles qui savent, comme le petit prince, que l'essentiel est invisible pour les yeux. À Antoine, mon compagnon de route qui, par son amour, humour, allège mon travail de retranscription et d'écriture. À tous, famille et amis, d'ici et d'ailleurs, visibles et invisibles, sans qui ce livre ne pourrait exister. À ma petite sœur qui a toujours aimé les êtres de la nature.
Introduction.
La chose la plus belle dont nous puissions faire l'expérience est le mystère. Il est source de tout art, de toute science. Celui qui ne connaît plus d'émotion, ne s'arrête plus pour s'étonner et vit emmitouflé dans ses peurs, n'est bon que pour la mort. Einstein. Il y a bien longtemps, si longtemps que notre mémoire en a perdu la trace, les nombreux peuples de l'éther avaient des contacts avec les humains. Des pactes se signaient parfois avec le sang, et le long des landes brumeuses des pays du Nord, il n'était pas rare de voir lors de sanglants combats des êtres aux formes étranges combattre auprès de féroces guerriers. Il n'y eut pas que des guerres et d'autres liens se nouèrent. Certains parmi ce peuple de l'éther avaient pour mission d'aider et de conseiller l'un ou l'autre des humains avec lequel ils s'étaient liés pour diverses raisons. Aujourd'hui, notre mental qui vit sur un mode accéléré a créé un écran entre ce qui fut autrefois et ce que nous vivons. Il ne nous permet plus qu'à de rares occasions d'entreapercevoir une réalité que bien souvent nous refusons de regarder. Il faut reconnaître que ce qui n'est pas tangible nous effraie. Nous ne savons pas comment contrôler ce qui est hors norme. Il suffit de voir comment nous éloignons de nos sociétés toute personne pouvant mettre en danger l'équilibre fragile et matérialiste sur lequel repose notre époque, et surtout notre civilisation occidentale. Nous n'avons jamais consommé autant de médicaments pour nous calmer ou nous endormir qu'à ce jour. Nous avons simplement peur de sortir des normes. Les diktats de notre presse et de nos médias font que nous croyons que pour être heureux, nous devons dormir un certain nombre d'heures, manger d'une certaine façon, acheter une quantité incroyable d'objets parfaitement inutiles. Avec tout ça, nous avons perdu le contact avec nos propres rythmes, notre cœur, notre sensibilité. Nous nous sommes coupés ainsi de l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons oublié qu'il y a parmi nous des êtres dits « invisibles » qui œuvrent à chaque battement de leur cœur pour la planète et qui en organisent les différents éléments. Il en est qui président à la pousse des plantes et de tout le règne végétal, d'autres qui sont en unité avec le royaume du minéral, d'autres encore appartiennent au monde de l'eau, tandis que certains d'entre eux aident le peuple animal et même les êtres humains. Les invisibles peuplent notre monde. Ils sont aussi nombreux que nous le sommes et tout aussi divers. Et si, jusqu'à présent, ils n'avaient cure d'être vus ou compris des humains, ils souhaitent aujourd'hui, en cette période de grande mutation, entrer en contact avec le peuple de la surface de la Terre. Ils souhaitent être connus non par besoin de reconnaissance, mais pour que nous puissions collaborer en bonne intelligence avec eux et permettre à la planète et à ses habitants d'effectuer son passage dans les meilleures conditions. Il y a des multitudes de races dans les mondes non visibles dont chacune possède des spécificités adaptées à son savoir-faire. À notre époque, bientôt révolue elle aussi, nous ignorons pour la plupart d'entre nous que les petits êtres étaient connus de nos ancêtres. Qui sait encore que Paracels avait un serviteur zélé qui habitait le pommeau de son épée, dont il va sans dire qu'il ne se séparait jamais. Le révérend Robert Kirk, qui vécut de 1641 à 1692, et fut pasteur en Écosse, écrivit « La République mystérieuse des elfes, des faunes, des fées et autres semblables ». Ismaël Mérindol, né en 1400 et qui a donné son nom à un village du sud de la France, a voulu même faire partie de cette race non humaine. Il raconte qu'après avoir été échangé à sa naissance, il fut élevé dans une famille humaine, mais garda des contacts fréquents et précis avec les races des invisibles. Il écrivit notamment, en 1446, un livre contenant de fabuleux secrets ainsi que des épisodes de sa vie. Il y avait tant à écrire qu'il ne put finir son ouvrage, dit-on, avant sa présumée disparition. Un exemplaire unique est encore conservé à la bibliothèque de Prague. Ce traité de féerie a été réédité par Édouard Brazé, édition Le Pré-au-Clair. Socrate avait son génie personnel qui le conseillait dans sa vie quotidienne. Il est d'ailleurs une anecdote qui rapporte qu'un jour, ce génie lui conseilla de se détourner d'une route qu'il allait prendre avec d'autres amis. Il fut le seul à écouter les conseils de son petit guide, et grand bien lui en prit sur la route à ne pas prendre. Ses amis croisèrent un troupeau de cochons et arrivèrent à destination couverts de boue. Ces personnages, réputés pour leur connaissance, leur sérieux, auraient-ils perdu tout bon sens en dévoilant publiquement leur rencontre avec le peuple des invisibles, si celui-ci n'existait pas? Le temps passa. Puis il y eut l'Inquisition. Je n'évoque pas ici cette période désastreuse de chasse aux sorcières qui dura tout notre Moyen-Âge. Non, l'Inquisition a débuté bien avant cela. Prenons l'exemple de l'empereur Charlemagne. Grand conquérant, il agrandissait son royaume et dans le même temps avait le soutien de l'Église dont il se devait d'augmenter le nombre de fidèles en convertissant ses ennemis à la foi catholique. Fort de cet appui, partout où il passait à grands renforts de têtes coupées, il contribuait à des conversions rapides et de masse. Le pape l'exhortait à remplir sa mission d'évangélisation s'il voulait asseoir son royaume et le transmettre à ses enfants. Il croyait sans doute, et il y trouvait son intérêt. C'est ainsi que lorsqu'il rencontra le peuple des Saxons, il ne chercha guère à comprendre leur culture. Il assista simplement à d'étranges cérémonies qu'il traduisit à sa façon. Ces païens pris devant un grand et bel arbre, coupez cet arbre, convertissez-les, commanda-t-il à ses chefs de guerre. Puis vint l'époque de la chasse aux sorcières où chaque femme, et parfois homme, qui conversait avec des êtres non humains ou qui détenait le secret des plantes, était irrémédiablement condamné et brûlé. Après bien des tortures pour avouer son commerce avec le diable. Les religieux voyaient le diable partout où eux-mêmes n'étaient pas. L'Église, en rendant ses fidèles craintifs et soumis, leur refusait ainsi toute possibilité de rentrer en contact avec des êtres d'autres dimensions. Il en coûtait trop cher de s'éloigner du dogme établi, et peu à peu, le voile de l'ignorance recouvrit notre civilisation dite moderne. L'ère de la technologie a mis un point d'orgue sur cette désensibilisation en séparant ce qui se voit de ce qui ne se voit pas et en tenant compte essentiellement du visible, du tangible, que seuls nos cinq sens sont capables de capter. L'ère industrielle a déclaré la mort de tout ce qui n'était pas compréhensible par notre intellect. Ce dernier devint la mesure de toute chose. Il obtint tout pouvoir et notamment celui de décider de ce qui était vrai, de ce qui ne l'était pas, c'était oublier que notre mental a, lui aussi, ses propres limites. Cependant, et au-delà de toutes ces considérations, il y eut toujours des êtres dont l'indépendance et la sensibilité permettaient d'aller à contre-courant des modèles établis, et ce, même parmi les gens d'Église.